Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, vous allez entendre le verset 131 de la Sainte Sourate Al-Nisa. Notre frère Rahnama vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle à l'homme la puissance de Dieu et le met en garde contre la mécréance.
بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما
à Dieu, tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Craignez Dieu. Voilà ce que très certainement nous avons enjoint à ceux à qui avant vous le livre fut donné, tout comme à vous-même. Et si vous m'écroyez, eh bien, à Dieu tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Et Dieu demeure au large, digne de louange.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. بسم الله الرحمن الرحیم. Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le samedi 7 Khordad 1401 du calendrier iranien, 28 mai 2022. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information suivi d'un commentaire politique. L'Iran a saisi deux pétroliers grecs dans le golfe Persique pour la violation de la loi. L'Iran annonce la saisie de deux pétroliers grecs dans le golfe Persique. Le général de division Barheri visite la base secrète de drones de l'armée de la République islamique d'Iran. Et les groupes de résistance palestiniens mettent en garde Israël contre la tenue de la marche du drapeau. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Le corps des gardiens de la révolution islamique a saisi deux pétroliers grecs dans les eaux du golfe Persique, au sud de l'Iran. Dans un communiqué, le corps des gardiens de la révolution islamique a déclaré que les navires avaient été saisis pour des violations qu'ils ont commises. L'incident survient quelques jours seulement après que la Grèce a saisi la cargaison de pétrole d'un pétrolier battant pavillon iranien et transféré son pétrole aux États-Unis. Le ministère iranien des Affaires étrangères avait déjà convoqué les chargés d'affaires suisses et grecs pour protester contre la saisie du navire au large des côtes grecques. La Suisse représente les intérêts américains en Iran. Le commentaire politique d'aujourd'hui est consacré à ce sujet. Le général de division Mohammad Barheri, chef d'état-major général des forces armées iraniennes, a visité l'une des bases secrètes et souterraines de drones du pays. Au cours de cette visite, le général de division Mohammad Barheri a été informé des capacités de pointe de l'armée iranienne dans le développement de différents types de drones militaires de combat et à longue portée. Les images publiées montrent le drone Kaman 12 avec une autonomie de vol de 12 heures et capable de transporter 4 bombes et missiles de fabrication nationale. Avec le lancement et la mise en exploitation de cette base secrète qui a été conçue et construite à des centaines de mètres de profondeur, l'Iran est devenu la première puissance de drones de la région. Les participants au quatrième dialogue sur la sécurité régionale en Afghanistan ont appelé à la mise en place d'un gouvernement représentatif dans ce pays. Le sommet a eu lieu vendredi à Douchanbé, la capitale du Tadjikistan. des hauts responsables de la sécurité d'Iran, de Russie, d'Inde, de Chine, du Pakistan, d'Ouzbékistan, du Kazakhstan et du Kirghizistan étaient présents à cette réunion. Ils ont publié une déclaration finale rejetant toute ingérence étrangère dans les affaires intérieures de l'Afghanistan. Le communiqué indique que toutes les parties doivent continuer à tenir des pourparlers et à dialoguer avec Kaboul. L'objectif est d'aider l'Afghanistan à adopter une politique intérieure et étrangère stable et à renforcer les liens cordiaux avec tous les pays. La déclaration a également appelé les talibans à respecter les droits et les libertés des personnes, quelle que soit leur appartenance ethnique. Le secrétaire du Haut Conseil de la sécurité nationale iranienne, Ali Shamkhani, a souligné que la sécurité et la stabilité de l'Afghanistan nécessitent un gouvernement stable et global, considérant que si les nationalités et les partis afghans se sentent un partenaire efficace dans le gouvernement et la gestion du pays, de nombreux problèmes seront résolus. Il a ajouté que limiter l'ingérence américaine en Afghanistan exige que les pays de la région coopèrent pour résoudre les problèmes du peuple afghan, en particulier les problèmes économiques. Des groupes de résistance palestiniens avertissent Israël avant la marche provocatrice du régime sioniste connue sous le nom de la marche du drapeau à Quds occupée. Le Hamas, le djihad islamique et d'autres groupes palestiniens ont menacé qu'ils riposteraient si Israël ne changeait pas l'itinéraire prévu du défilé et tentait de s'approcher de la mosquée Al-Aqsa. Le mouvement populaire de la jeunesse d'Al-Aqsa dit qu'il veut que la dimanche soit commémorée comme le jour du drapeau palestinien en hissant le drapeau national sur le toit de chaque maison, place et rue. Des groupes israéliens organisent un événement annuel pour commémorer l'occupation de la vieille ville et d'autres quartiers palestiniens en 1967. Un rassemblement similaire l'année dernière s'est terminé par la répression israélienne et les attaques à la roquette de représailles du Hamas qui ont conduit à une guerre de 11 jours contre Gaza. Les responsables du régime sioniste disent qu'une série de raids et d'arrestations sont attendues dans les territoires occupés avant la marche prévue. Les États-Unis ont annoncé de nouvelles sanctions financières à la suite des derniers tirs de missiles nord-coréens visant notamment deux banques russes accusées de soutenir le programme d'armement de la Corée du Nord. Ces mesures interviennent après le veto jeudi de la Russie et de la Chine à une résolution américaine au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies pour renforcer les sanctions internationales contre Pyongyang. L'ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies avait alors accusé Pékin et Moscou d'enhardir Pyongyang, promettant de nouvelles mesures punitives unilatérales de Washington contre la Corée du Nord. Ces sanctions ciblent la Far Eastern Bank et Bank Sputnik, deux établissements russes accusés par le Trésor américain d'avoir sciemment fourni d'importants services financiers à la Corée du Nord. Elles visent aussi Jongyang Nam, un individu qui, selon le Trésor américain, travaille depuis le Bélarus, pays allié de la Russie, pour l'Institut de recherche nord-coréen en matière d'armement, ainsi qu'une société affiliée à la compagnie aérienne nord-coréenne Air Koryo, qui était elle-même déjà sur la liste noire des Américains. Leurs éventuels avoirs aux États-Unis sont gelés et l'accès au marché américain leur a été barré. Le Trésor américain rappelle dans un communiqué que la Corée du Nord a lancé 3 missiles balistiques, dont un intercontinental, le 24 mai, juste après la visite en Asie du président américain Joe Biden, ce qui porte à 23 les essais de missiles balistiques depuis le début de l'année. Le corps des gardiens de la révolution islamique a saisi vendredi 2 pétroliers grecs dans le golfe Persique pour violation, quelques jours après qu'un pétrolier iranien a été saisi illégalement par la Grèce dans ses eaux territoriales. Les forces navales du corps des gardiens de la révolution islamique a saisi 2 pétroliers grecs pour des violations qu'ils ont commises dans les eaux du golfe Persique, a déclaré le corps des gardiens de la révolution islamique dans un communiqué. Plus tôt dans la journée, l'Iranien Nour News a annoncé que le pays allait prendre des mesures punitives contre la Grèce pour la saisie du pétrolier iranien. Nour News, qui est affilié au Conseil suprême de la sécurité nationale iranienne, a fait cette annonce sans expliquer quel type d'action la République islamique d'Iran avait l'intention de prendre. L'Organisation iranienne des ports et des installations maritimes a publié vendredi un communiqué décrivant la saisie par les États-Unis de la cargaison du pétrole iranien d'un navire affrété par la Russie dans les eaux territoriales grecques comme un acte de piraterie qui était en violation des normes internationales. L'Organisation iranienne des ports et des installations maritimes a déclaré que le navire avait été détenu par le gouvernement grec sur les côtes de ce pays et que la cargaison à bord du navire avait été saisie sur ordonnance du tribunal et en coordination avec le gouvernement américain. Jeudi, l'agence Reuters a cité des sources anonymes affirmant que le département américain de la justice avait confisqué 700 000 barils de pétrole iranien saisis le mois dernier au large de l'île d'Obé, dans le sud de la Grèce, à bord d'un navire affrété par la Russie. Pendant ce temps, la 5e flotte de la marine américaine, basée au Moyen-Orient, a déclaré qu'elle étudiait les informations selon lesquelles la République islamique d'Iran aurait saisi 2 pétroliers grecs. Le commandant Timothy Hawkins, de la 5e flotte américaine, a déclaré à l'Associated Press que la marine continuait d'enquêter sans donner plus de détails. Vendredi, le ministère iranien des Affaires étrangères a convoqué le chargé d'affaires de la Suisse qui représente les intérêts de Washington à Téhéran pour protester contre la saisie par les États-Unis de la cargaison de pétrole iranien. Le ministère a également convoqué mercredi le chargé d'affaires grec pour protester contre cette décision. La Grèce confirme la saisie de ses pétroliers dans le golfe Persique. Athènes a annoncé vendredi que des hélicoptères de la marine iranienne avaient débarqué des hommes armés sur les deux pétroliers plus tôt dans la journée. L'un d'eux, le Delta Poséidon, naviguait dans les eaux internationales, a déclaré le ministère grec des Affaires étrangères, ajoutant que le deuxième pétrolier se trouvait près des côtes iraniennes lorsqu'il a été saisi. Le ministère grec des Affaires étrangères a également déclaré que 9 Grecs faisaient partie des équipages des deux navires, mais n'a pas donné un certain nombre d'autres marins à bord. Athènes a informé l'Union européenne et l'Organisation maritime internationale de l'incident, a-t-il ajouté.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur une nouvelle édition de débat de Presse TV français en ce vendredi 27 mai depuis la capitale iranienne, Téhéran. Le SOS de l'Union européenne au Sénégal dans l'affaire ukrainienne? Sinon, pourquoi l'Union européenne frapperait-elle à la porte du Sénégal dans cette affaire? En effet, il y a quelques jours, le président sénégalais Macky Sall a annoncé son intention de se rendre très bientôt en Russie, mais également en Ukraine, au nom du chef de l'Union africaine. Je cite, « Dès que c'est fixé, je me rendrai naturellement à Moscou et aussi à Kiev. Et nous avons aussi accepté de réunir l'ensemble des chefs d'État qui le souhaitent, avec le président ukrainien Zelensky, qui a exprimé le besoin de communiquer avec les chefs d'État d'Afrique », a annoncé le président Sall. Il est clair que depuis le début de l'opération militaire russe en Ukraine, l'Union européenne est prise au piège avec le suivisme des politiques hégémoniques des États-Unis. L'approvisionnement en gaz pose un grand défi pour les pays de l'Europe. De son côté, l'Allemagne tente tant bien que mal de tirer son épingle du jeu. Une première visite au Qatar n'a visiblement rien donné. Cette fois-ci, l'Allemagne frappe à la porte du Sénégal. Olaf Scholz était à Dakar en discussion intense avec les autorités sénégalaises. Visiblement, Berlin est prêt à faire beaucoup de concessions à Dakar dans l'affaire du gaz. En effet, avec 910 milliards de mètres cubes de gaz, le Sénégal est le 5e pays de l'Afrique et le 25e pays du monde en termes de réserves de gaz. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous présenter nos deux invités d'honneur, je vous propose de regarder un reportage préparé par mes collègues et on revient tout de suite après.
Actuellement, à la présidence tournante de l'Union africaine, le chef d'État sénégalais Macky Sall a déclaré lors d'une conférence de presse commune avec le chancelier allemand Olaf Scholz qu'il avait reçu mandat de l'UE pour effectuer un voyage en Russie et en Ukraine. La Russie avait adressé une invitation en ce sens. Le déplacement initialement prévu le 18 mai n'a pu avoir lieu pour des raisons de calendrier. Il a proposé de nouvelles dates. « Dès que c'est fixé, je me rendrai naturellement à Moscou et aussi à Kiev et nous avons aussi accepté de réunir l'ensemble des chefs d'État qui le souhaitent de l'Union africaine avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui avait exprimé le besoin de communiquer avec les chefs d'État africains », explique Macky Sall. Cela aussi sera fait dans les semaines à venir. Le Sénégal avait surpris le 2 mars en s'abstenant lors d'un vote de l'Assemblée générale de l'ONU en faveur d'une résolution qui exigeait que la Russie cesse immédiatement de recourir à la force contre l'Ukraine. Le conflit nous affecte, mais se déroule sur un autre continent, a dit Macky Sall. Nous voulons la paix même si nous condamnons l'invasion, a-t-il dit, plus explicitement que par le passé. Nous travaillons, nous, pour qu'il y ait une désescalade. Il a préconisé un cessez-le-feu, un dialogue et une paix juste pour l'Ukraine, pour la Russie aussi. Ce dimanche, en visite au Sénégal, l'Allemagne est en discussions intensives avec le Sénégal pour participer à des projets autour des ressources en gaz du pays ouest-africain qui est lui-même prêt à alimenter l'Europe, on dit dimanche, le chancelier allemand Olaf Scholz et le président sénégalais Macky Sall. Pour sortir de sa dépendance au gaz russe, l'Allemagne multiplie les discussions avec des pays producteurs. Lors d'une conférence de presse conjointe à Dakar, le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré que son pays est déjà engagé au Sénégal dans des projets d'énergie renouvelable ou de stockage de l'énergie et des discussions commencées en ce qui concerne le gaz. Comme toujours, l'Europe se bat sur l'Afrique pour s'en sortir, mais la visite de Macky Sall à Moscou pourrait encore faire basculer pas mal de choses dans les relations entre l'Europe et l'Afrique. L'Europe est en danger et encore une fois, elle montre que sans l'Afrique, elle ne serait strictement rien.
Quels sont alors les objectifs de la visite prochaine du président sénégalais Macky Sall ? En Russie et en Ukraine, le Sénégal se tourne-t-il vers l'Union européenne ou Macky Sall opte-t-il plutôt pour une alliance avec l'axe de l'Est, dont la Russie ? On en débat avec nos deux invités d'honneur, Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles. Je vous dis bonjour, Monsieur Michel.
Bonjour à vous, bonjour à toute votre équipe. Et merci. Bonjour à mon ami Fabrice.
Merci beaucoup. Et bien sûr, notre deuxième invité, Fabrice Béor, expert pour l'ONG EOD. Monsieur Béor, bonjour.
Bonjour à vous, bonjour à vos téléspectateurs et bonjour à mon ami et camarade de combat, Luc Michel.
Merci à vous. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, Monsieur Michel, on va commencer avec vous. Je relis une phrase des déclarations du président Sall lors de sa rencontre avec Olaf Scholz. Nous sommes prêts, nous Sénégal en tout cas, à travailler dans une perspective d'alimenter le marché européen en GNL, a déclaré donc le président Sall. Mais Monsieur Michel, n'est-ce pas un petit peu contradictoire avec les prises de position de Monsieur Sall? Alors, la décision du Sénégal, le vote du Sénégal lors de l'Assemblée générale de l'ONU, où il a refusé de voter contre la Russie, contre une résolution condamnant l'opération russe en Ukraine, mais aussi le fait qu'après, le Sénégal avait vivement condamné les tentatives de recrutement de mercenaires lancées par l'Ukraine au Sénégal. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que le Sénégal se dirige vers l'Union européenne? Que s'est-il passé réellement lors de cette rencontre avec le chancelier allemand, M. Michel?
Non, simplement le Sénégal adopte une attitude qui est une attitude de neutralité dans un conflit dont il considère qu'il ne le concerne pas. Mais bien entendu, Macky Sall est président de l'Union africaine, il ne peut pas ouvertement défier l'Union européenne. Mais il faut savoir qu'il y a eu, il y a quelques semaines, un sommet des États producteurs de gaz à Doha, et le Sénégal était représenté. Depuis 2018, le Sénégal a opéré un retournement géopolitique, c'est-à-dire que celui qui était auparavant un allié des Occidentaux, c'est pour des raisons justement de production sur le marché du gaz tourné vers le bloc de l'Est. Et aujourd'hui, dans ces États producteurs de gaz, le Sénégal est l'allié principal de la Russie et de l'Iran surtout. Et bien entendu, à Doha, il a affirmé une position qui est une position proche des positions du bloc de l'Est. À partir de ce moment-là, Macky Sall, dans le conflit ukrainien, a une position de neutralité et voudrait que l'Union africaine adopte une position de rapprochement entre Kiev et entre Moscou, et pas du tout évidemment de rapprochement avec les positions du bloc occidental.
Monsieur Michel, vous voulez donc dire
le Sénégal a exprimé justement une position dans le domaine du gaz qui était proche du bloc de l'Est. C'est tout le problème de la stratégie des Occidentaux et en particulier de l'Union européenne. C'est-à-dire que l'Union européenne compte sur des pays africains, l'Algérie, le Sénégal, mais aussi sur un pays qui est l'Iran, pour suppléer le gaz russe. Et c'est une stratégie suicidaire, puisque ces pays, pour des raisons de contrôle du marché du gaz, ne suivront pas le bloc américano-occidental, ne suppléeront pas beaucoup la Russie. C'est tout cela qu'il faut comprendre. l'Union européenne a une stratégie qui est simplement une stratégie inopérante oui. face à la Russie.
Monsieur Michel, vous voulez donc dire qu'en tant que chef de l'Union africaine, Macky Sall devrait garder sa neutralité, mais en tant que président sénégalais, il pourrait quand même mieux exprimer en fait, son positionnement vis-à-vis de la Russie ?
Écoutez, je ne pense pas que Macky Sall poignardera dans le dos la Russie. C'est la même chose que l'Algérie. D'autant plus que dans cette affaire, ce n'est pas un duo. Ce n'est pas une relation bilatérale, une relation donc Sénégal-Union européenne. Mm-hmm. C'est un axe gazier Moscou-Alger-Sénégal et que dans cet axe, évidemment, l'Algérie a déjà précisé qu'elle ne trahirait pas la Russie. Elle a sans doute conseillé à Macky Sall de faire de même.
Merci pour vos explications. Alors, Monsieur Béor, depuis Moscou, à votre avis, alors il y a des analyses comme quoi le Sénégal aurait l'intention de remplacer le grand projet Nord Stream 2. À votre avis, est-ce que Macky Sall a vraiment l'intention de faire ceci et est-ce qu'il compte alors vraiment remplacer la Russie dans le Nord Stream 2 ?
Ce qu'a indiqué précédemment Luc Michel en ce qui concerne les axes géopolitiques et dans le cas précis géostratégique et géoénergétique fait que déjà c'est, l'Europe semble ne pas comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Mais d'un point de vue pratique,
oui.
Ce que propose le Sénégal, c'est du GNL. Et la quantité de production du GNL ne pourra être disponible véritablement que d'ici, dans le meilleur des cas, 5, 7, 8 ans. C'est le temps des projets d'infrastructure qui doivent être mis en place. Mais là, à l'heure actuelle, l'Europe, l'Union européenne tout du moins, essaye de trouver des alternatives immédiates à court terme, c'est-à-dire à moins d'un an,
oui.
sur le gaz. Sauf que le GNL, c'est liquide, il faut des méthaniers, des bateaux pour les transporter. Il n'existe pas, il n'y en a pas assez. Il faut des usines après pour le retransformer, pour le regazifier, ce qu'on appelle le détendre. Elle n'existe pas ou très très peu en Europe. Donc en réalité, on est dans une réalité virtuelle que l'Europe semble ne pas comprendre. C'est assez hallucinant qu'ils ne comprennent pas que pratiquement, techniquement, d'où provient le GNL, des États-Unis ou du Sénégal, il n'y a pas les moyens pour le transporter, autant, pour compenser, on va dire, l'arrêt total du gaz russe. Ça n'existe pas. Il y en a, dans le meilleur des cas, ce n'est pas avant 5 ans que l'Union européenne pourrait se passer, et encore, du gaz russe. Je précise deux éléments supplémentaires. Le premier, c'est que c'est un marché mondial et qu'on a bien vu les États-Unis, lorsque le GNL, ils avaient promis déjà, il y a quelques temps, il y avait eu une période où ils devaient envoyer du GNL à l'Europe. Mais vu que les prix étaient plus importants en Asie, le GNL américain était parti en Asie et pas en Europe. Donc on voit les alliés tels qu'ils sont. Il n'y a aucune raison que les autres pays ne fassent pas autrement. Hein. On parle de marché libre et non faussé. Acceptons à ce moment-là le marché, même l'Union européenne. Donc on est dans une situation où ils n'ont pas les moyens, où il n'y a pas les capacités aujourd'hui techniques de production. Ça n'existe pas, même si certains pays, tels qu'on en a parlé, pourraient augmenter leur production. Même la petite production qui serait augmentée à l'heure d'aujourd'hui, le maximum qu'ils ne pourraient faire, ne pourrait pas compenser le gaz russe. Mais en plus, comme ça a été indiqué précédemment, il y a une entente sur les prix du gaz au niveau des principaux producteurs mondiaux. Donc, ça ne se fera pas. Donc, toutes ces démarches peuvent avoir une efficience peut-être dans les 5-10 ans, je pense plutôt dans les 10 ans, puisqu'on se redirige effectivement avec la politique de l'Union européenne qui s'est totalement alignée sur l'impérialisme américain, qui veut diviser donc les deux Europes et faire un mur de séparation avec la Russie. Donc on se redirige vers une redistribution des flux d'énergie, c'est-à-dire que le gaz russe ou le pétrole qui allait en Europe partira dans le reste du monde et en particulier en Asie, dans ce bloc eurasien qui est en train de se former économiquement. Mais le temps que ça arrive pour les Européens, ils devront toujours, au moins pendant 3 ou 5 ans, continuer à acheter le pétrole et le gaz russe puisqu'ils ne peuvent pas s'en passer.
Luc Michel, Monsieur Béor vient de relever un point très important. Donc, le processus de production et d'exportation du GNL, qui prend au moins 5 à 7 ans selon Monsieur Béor. Donc, est-ce que ce sont des tentatives en vain de l'Union européenne de vouloir trouver un remplaçant pour le gaz russe et donc de frapper à la porte de plusieurs pays, dont le Sénégal?
L'Union européenne fait de la gesticulation diplomatique. Ils ont l'air de ne rien comprendre, comme Fabrice l'a dit. Ils ne rien comprendre au marché mondial du gaz, mais ne même pas comprendre les données techniques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas gaz et gaz. Le gaz russe est un gaz volatile de très bonne qualité, très bon marché. Les gaz qui sont proposés aux États-Unis ou en Afrique, ce sont des gaz liquides qui répondent à d'autres données techniques et qui, en plus, prenons le cas du gaz américain, coûte 6 fois plus cher que le gaz russe, même si ce gaz était immédiatement disponible, ce gaz liquide. Ce qui n'est pas le cas, ce serait une catastrophe pour les économies européennes, puisque tous les prix vont monter. On prévoit sur le marché domestique européen, simplement, déjà dans les prochaines années, une augmentation au moins de 300% des prix du gaz. Mais l'Union européenne fait une position de principe. Elle prétend dire à la Russie, voilà, nous allons vous remplacer. Et elle prétend dire à son opinion publique, nous allons remplacer le gaz russe. C'est une position de principe qui est complètement idiote. Vous savez, Lénine parlait des idiots utiles en géopolitique. Aujourd'hui, l'Union européenne, ce sont les idiots utiles de l'impérialisme américain dans le domaine géopolitique et dans le domaine du gaz.
Mmh. Fabrice Béor, en ce qui concerne ce que vient de dire Luc Michel, à votre avis, donc, jusqu'où l'Union européenne poursuivra-t-elle son suivisme aveuglé des politiques américaines?
Oh, jusqu'à l'hiver qui arrive, parce que actuellement, ce que personne ne dit, en particulier au mois d'avril, actuellement, il va y avoir des prêts supplémentaires puisque les Ukrainiens ont coupé certains gazoducs. Les Polonais l'ont fait ou vont le faire en se suicidant eux-mêmes, en se faisant harakiri, parce que ça empêche le gaz d'arriver en Allemagne. Et c'est ce gaz en Allemagne qu'ils achetaient pour éviter de l'acheter directement à la Russie. L'hypocrisie totale. Bon, là, on sort du domaine de la rationalité. Hein. C'est pour ça qu'on parle de il y a un virus. Un virus qui pose problème au niveau de certains décisionnaires. Mais dans le cas précis, ils ne peuvent pas se passer de ce gaz russe, tout simplement parce qu'il n'y a pas les moyens. Il n'y a pas les moyens techniques de se passer du gaz russe. Je rappellerai quand même qu'avant la crise ukrainienne, il était prévu qu'à la fin de l'année, nous ayons en Europe de l'Ouest une augmentation des prix de l'énergie, dont essentiellement vient, en particulier l'Allemagne, mais d'autres, vient en fait de la production du gaz. Et donc, essentiellement, les prix devaient augmenter par 2 fois pour le consommateur. Donc, nous sommes bien dans une situation où vous avez aujourd'hui une augmentation du prix du gaz et de l'énergie en général, qui était déjà programmée de par la situation mondiale, qui n'a effectivement ne fait que s'aggraver avec la situation en Ukraine, mais elle s'est aggravée avec la situation en Ukraine de par les propres décisions de l'Union européenne. Pas par rapport à la Russie, qui continue à appliquer et exécuter les accords commerciaux qu'ils ont. Donc l'Union européenne peut chanter tout l'été, mais quand la bise viendra, ils seront fort dépourvus. Et à ce moment-là, ils devront automatiquement, effectivement, revenir à la réalité. Et la réalité, c'est qu'ils ne peuvent pas se passer du gaz russe. Le pétrole, c'est une autre question. Ils ne pourront pas non plus cette année, mais cette année, c'est une évidence. Et l'année prochaine, c'est encore une évidence. Ils ne peuvent pas s'en passer avant 3, 4, 5 ans, dans le meilleur des cas, parce qu'il faut des bateaux. Et qui va construire les bateaux? Les Coréens, les Chinois? Ils sont très contents, eux. Hein. Mais les, certainement pas les Américains, qui n'ont pas les moyens. Mais nous sommes dans une situation, je répète et je conclue, mais nous sommes dans une situation où vous avez une impossibilité technique, quel que soit le cas, de refuser le gaz russe. Et quand bien même, quand on arrivera à la possibilité technique de se passer du gaz russe, le prix de l'énergie sera aussi très important. Parce que beaucoup disent, oui, mais le prix va retomber parce qu'on va avoir une crise économique et que donc il va y avoir moins de demandes. Sauf qu'ils oublient qu'il y a aussi moins d'offres qui vont arriver, puisqu'on est partout dans un pic d'offres énergétiques. Et qu'il n'y a pas eu d'investissement, d'ailleurs, pendant beaucoup d'années sur l'investissement pour trouver donc de nouvelles ressources. On est donc dans une situation dans un cul-de-sac dans lequel s'est mise toute seule l'Union européenne. Et donc, dès cet été, avec les augmentations qu'ils ont fait d'achats supplémentaires à la Russie de gaz, ça ne suffira pas pour qu'ils puissent passer l'hiver, et ça ne suffira pas en tout cas pour qu'ils puissent même s'en passer l'année prochaine. C'est une évidence. Vous allez voir qu'avant la fin de l'année, les discours vont beaucoup changer, et surtout lorsque l'opération spéciale russe en Ukraine sera essentiellement terminée, vous allez voir que les grandes déclarations vont vite se terminer, puisque sinon, l'alternative, c'est l'arrêt de l'essentiel des usines en Allemagne ou en Europe, ou alors c'est soit les usines fonctionnent, ou soit vous ne chauffez pas l'hiver. C'est au choix, mais je pense que la solution, elle est aujourd'hui toute tracée. Que le GNL, d'où qu'il provienne, même du Sénégal, ne pourra pas, avant quelques années, arriver en Europe. D'ici là, il n'y a pas d'autre solution que le gaz russe, ce qui laisse le temps, d'ailleurs, à la Russie, à l'heure d'aujourd'hui, de construire les nouveaux chemins et les nouveaux moyens de transport pour acheminer son pétrole et son gaz vers ses clients solides en Asie, l'Inde, la Chine et les autres pays avec lesquels des accords en ce moment sont conclus.
Merci M. Béor. Alors M. Michel, étant donné ce que M. Béor et vous venez de dire, il y a une question qui se pose. Je remonte un peu en arrière. Il y a près de 3 ans, il y avait un documentaire diffusé et rédigé par BBC qui tentait en fait de réclamer la tête du frère du président Sall, donc Aliou Sall, à l'époque également ministre de l'énergie. On avait bien compris qu'Aliou Sall, le frère du président Sall, avait tenté de refaire le chemin du Joseph Kabila, le président à l'époque, congolais, afin de en fait faire sortir et expulser, au moins réduire la part des multinationales, notamment des agents britanniques qui étaient à l'époque, notamment en Afrique, mais aussi au Sénégal. La question qui se pose est de savoir est-ce que le Sénégal est assez indépendant afin de décider de l'avenir de ses ressources naturelles, aussi bien du gaz que du pétrole, M. Michel.
Et ce qui a fait le retournement à 180 degrés du Sénégal, qui s'est détourné de l'Occident, et s'est allié au bloc de l'Est et en particulier à votre pays, l'Iran, et à l'Algérie, c'est précisément la maîtrise de ces hydrocarbures, pas seulement d'ailleurs le gaz, mais également le pétrole. Les nouveaux champs pétroliers ont été donnés aux Russes Lukoil et plus à la multinationale australienne anglo-saxonne, donc qui était présente dans le pays. En échange directement, le Sénégal a été victime d'une tentative. Il y a eu 2 tentatives de révolution de couleur. La dernière, lors des élections présidentielles et législatives pour renverser Macky Sall. Macky Sall a pris des dispositions. C'est le seul pays africain qui, notamment, a une législation qui interdit de financement les réseaux de George Soros, les fondations sud-africaines de Soros, comme on dit, moi. De financement des groupuscules remis en amarre au Sénégal. À partir de ce moment-là, oui, c'est un échec des multinationales anglo-saxonnes et des réseaux anglo-saxons et américains de financement et de contrôle de la politique du Sénégal. Évidemment, Macky Sall, qui n'est pas un homme facile, évidemment, n'est pas décidé à pardonner cette tentative de révolution de couleur. Il faut constater quelque chose d'ailleurs dans le marché du gaz. En plus, c'est qu'il y a une position, un fossé qui sépare aujourd'hui les dirigeants de l'Union européenne qui ont une géopolitique et réalisme, et les spécialistes du marché du gaz qui, eux, souhaitent rester en liaison avec la Russie. Notamment, la moitié des multinationales européennes du gaz.
Oui.
Elles sont prêtes et elles sont décidées à ouvrir des comptes en roubles et à maintenir leurs relations, à payer la Russie comme elle le demande, en roubles et en Russie même.
Merci.
Il y a un fossé qui sépare les dirigeants de l'Union européenne et les dirigeants du marché géoéconomique du gaz. Dans
Merci.
Cette position, évidemment,
Merci à vous, monsieur,
l'Union
monsieur.
Européenne, évidemment, elle a tort de compter sur le Sénégal, ce qui est une position qui n'est d'ailleurs pas soutenue par les dirigeants de l'Union européenne dans le domaine du gaz. Il y a un fossé qui sépare
Merci
les
à vous, dirigeants monsieur Michel.
Politiques de l'Union européenne et les dirigeants économiques du marché gazier.
Merci à vous, merci infiniment. Alors, on était avec Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles, Fabrice Péor, expert pour l'ONG EOD depuis Moscou. Le débat de ce vendredi touche à sa fin. Je vous souhaite très bonne journée à toutes et à tous et à très bientôt.
Chers amis auditeurs, merci d'être avec nous pour une autre émission portant sur l'actualité de l'Asie de l'Ouest. Le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale iranien, Ali Shamkhani, a accusé des États régionaux d'exporter les terroristes vers l'Afghanistan. Lors d'un discours prononcé ce vendredi 27 mai, lors de la 4e réunion régionale sur la sécurité à Dushanbe, la capitale du Tadjikistan, il a souligné que la volonté de la République islamique d'Iran d'établir la sécurité sur le territoire afghan est extrêmement importante car elle contribue à donner au peuple afghan le bien-être qu'il souhaite. Or, selon M. Shamkhani, il existe des preuves et de documents convaincants et préoccupants quant au rôle joué par certains pays de la région dans le transport des terroristes et leur envoi en Afghanistan. Ce qui nécessite d'affronter ces terroristes, en particulier de la part du gouvernement afghan, qui doit assumer ses responsabilités face au terrorisme et à ses commanditaires, a-t-il insisté. Le terrorisme et l'extrémisme font partie des éléments les plus importants qui déstabilisent la sécurité et la stabilité en Afghanistan, a-t-il averti. Ces dernières semaines, l'Afghanistan a fait l'objet de 4 attentats à la bombe meurtrière. 3 d'entre eux ont visé des minibus à Mazar-i-Sharif dans le nord et le 4e, une mosquée à Kaboul, tuant 16 personnes. M. Shamkhani a souligné que la sécurité de l'Iran est basée sur l'établissement de la sécurité dans la région et notre pays considère que l'établissement de la sécurité et de la paix en Afghanistan est l'une des questions nécessaires et importantes pour tous les pays de la région qui devraient donc concentrer leurs capacités sécuritaires et leurs mesures communes de dissuasion pour empêcher la cristallisation du noyau d'insécurité et de déstabilisation dans cette région. Selon le responsable iranien, les États-Unis portent la responsabilité de la guerre en Afghanistan qui a duré 20 ans, en plus de la guerre en Ukraine, en raison de leur politique expansionniste. Un drone israélien a été abattu dans le sud du Liban. Le correspondant d'Al-Mayadin au Liban Sud a confirmé la destruction d'un drone israélien dans le sud du Liban, soulignant que l'occupation israélienne tente de le récupérer après que l'armée libanaise en ait pris possession. Le drone israélien de type Skylark s'est écrasé entre les villes d'Aïta al-Shaab et de Rmeish dans le sud du Liban. Pour rappel, jeudi dernier, les médias israéliens ont rapporté que le système antimissile de défense aérienne baptisé « d'homme d'affaires » du régime sioniste avait intercepté un drone appartenant aux forces d'occupation israéliennes dans le nord de la Palestine occupée en raison d'un faux diagnostic. Les médias israéliens ont rapporté avoir entendu des sirènes en Galilée, affirmant que cela était dû à l'infiltration d'un drone depuis le territoire libanais et que le dôme de fer a intercepté l'avion et l'a abattu. Plus tard, il s'est avéré que le drone était israélien, sachant que les tirs de missiles du dôme de fer ont raté de le viser dans sa direction. Le survol du territoire libanais par des drones et des chasseurs israéliens constitue une violation de la résolution 1710 du Conseil de sécurité de l'ONU qui avait abouti à la conclusion d'un cessez-le-feu en août 2006. Les factions de la résistance palestinienne ont mis en garde l'occupation israélienne contre la moindre folie permettant une incursion au sein de la mosquée Al-Aqsa, sous couvert de la marche des drapeaux. Ce plan aura l'effet d'une poudrière qui fera exploser et enflammer toute la région, ont averti ces factions à l'issue d'une réunion tenue au siège du Front populaire de la libération de la Palestine dans la bande de Gaza. Elles ont affirmé être en état de réunion permanente, suivant de près toutes les déclarations, toutes les images de l'événement et toute agression perpétrée par l'ennemi israélien, tenant pour responsable l'entité sioniste pour les séquelles qui découleront de ces attaques. Ces factions ont décrété l'état d'alerte générale, appelant le peuple palestinien à être prêt à défendre la terre et les lieux saints et à s'engager dans une confrontation ouverte contre l'ennemi israélien. Elles ont également appelé les Palestiniens d'Al-Rots, de la Cisjordanie et d'autres régions de la Palestine occupées à se rassembler dans les cours de la mosquée Al-Aqsa à partir de vendredi et de considérer le dimanche 29 mai comme une journée nationale pour la défense d'Al-Aqsa et de mobilisation populaire. Les factions de la résistance palestinienne ont également appelé tous les acteurs internationaux et arabes, à leur tête l'Égypte, à intervenir de toute urgence pour freiner le comportement criminel de l'occupation, soulignant que les conséquences du plan sioniste de prendre d'assaut Al-Aqsa seront désastreuses et ne se limiteront pas au territoire palestinien, mais enflammeront toute la région. Dans le même contexte, le secrétaire général du Hezbollah libanais, Saïd Hassan Nasrallah, avait affirmé que toute atteinte à Al-Aqsa conduira à une explosion majeure dans la région, mettant en garde l'entité sioniste de commettre l'irréparable et soulignant que cela conduira à des conséquences inimaginables. Le 18 mai dernier, le ministre israélien de la Sécurité intérieure, Omar Bar-Lev, et le commissaire de la police d'occupation, Kobi Shabtai, ont accordé l'autorisation à la marche des drapeaux qui se tiendra dimanche prochain, permettant aux colons israéliens de passer par Bab al-Amoud al-Rots occupé. Dans un communiqué publié par son bureau de presse, le Hezbollah libanais a salué la criminalisation de la normalisation avec Israël par le Parlement irakien. Le Hezbollah est fier et reconnaissant de cette décision historique. C'est une démarche importante et cruciale dans la confrontation au processus de normalisation humiliant conduit par certains pays arabes. Elle constitue également un ferme soutien au peuple palestinien et à sa résistance héroïque dans la lutte contre l'agression et le terrorisme sioniste. Est-il écrit dans le communiqué publié par le bureau de presse du Hezbollah ce vendredi 27 mai. À la fin de son communiqué, le Hezbollah libanais a appelé les partis politiques arabes et les masses de la nation arabe de tirer le meilleur parti de l'exemple irakien dans son contenu et son timing. Voilà, ainsi s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivie et à la prochaine fois.
Thank you.